Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéolandia de la semaine qui suit le samedi 3 octobre 2020, directement de Mont-Saint-Hilaire, tout en couleur d'automne. Le numéro 40. Conception, animation, Richard Glenn. Notre invité, M. Alain Niala, philosophe consultant, sur le thème qui suit bien celui de la semaine dernière, prudence. Cette semaine, c'est imprudence. Il y a des risques à prendre à parler en public de certains sujets. Il y aura une version pour le Club Créé, réservée aux abonnés du Club Créé du mois d'octobre. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, ou aussi d'écouter la version audio MP3 par Jean-François Poulin, tous les deux dans le forum Orandia. À la régie, comme à l'habitude, Geneviève, bien connue ici sous le nom de Spirale. Alors voici une émission très ésotérique. Bonne écoute.
On est confiné maintenant au Québec. Ben oui, ça a recommencé au 1er octobre. Alors oui, c'est une période de réflexion profonde. On peut bien prendre ça, mais ça sous-entend plein de conditions préalables auxquelles on s'est préparé parce qu'on voyait venir la vague, deuxième vague, ou alors on est détaché, puis on se dit, on va laisser le hasard faire les choses. Ou on peut être fâché, enragé, on voudrait que ça n'arrive pas, comme quand on gèle l'hiver puis qu'il nous manque de bois de chauffage parce qu'il y a eu plus de froid que des autres hivers, ben on peut être enragé contre l'hiver. Ça ne change rien. Hein? Alors, pour ce moment de réflexion, cette entrée en matière du mois, puisqu'on va être encore dans le cénacle pendant un certain temps, c'est l'image que vous voyez derrière moi, le cénacle. J'ai choisi cette image-là, qui est vraiment le cénacle à Jérusalem, qu'on prétend que Jésus, avec ses apôtres, était réunis là, puis qu'après, ils sont allés se cacher là pendant 40 jours. J'espère que nous autres, notre confinement ne durera pas 40 jours, là. C'est pas ce qu'ils nous annoncent, en tout cas. Eh bien, j'ai comme invité M. Alain Niala, seul. Bonsoir, Alain.
Bonsoir.
Eh oui, je pense que c'est un moment de réflexion hein, qu'il nous impose encore une fois.
On est en pleine lune.
Oui, hein, c'est la pleine lune le jour même qu'on fait l'émission. Oui.
Donc, c'est le jour de la pleine lune et c'est le début d'un cycle de 28 jours, un cycle lunaire. Donc, qui vivra verra.
Oui.
C'est pas fait pour ça. Eux autres, leur calcul, c'est 2 fois 14 jours d'incubation. Là. Ouais. Mais disons que quand même, 28 jours, c'est le temps d'une lunaison avec son cycle complet là, qu'on va faire chez nous.
Bon, ben écoute, je sais tu es reconnu pour être un philosophe, consultant, on comprend, c'est un philosophe qui se met à la disposition de quelqu'un qui a des questions, qui cherche des avenues de réponse. C'est pas un psychologue, c'est pas un psychanalyste, c'est pas un psychiatre surtout, mais si c'est un philosophe, dis-moi d'abord qu'est-ce que c'est la définition d'un philosophe, rapidement Alain, parce que...
évidemment. Oui, on a déjà parlé, mais oui. J'aimerais même revenir sur une idée, c'est que ça vient le mot vient du grec, philosophe, c'est l'amoureux de la sagesse, hein? Philosophia, là. Et donc, aimer la sagesse, c'est pas nécessairement exclusivement une démarche intellectuelle. Les gens perçoivent les philosophes comme étant des penseurs, parce que beaucoup des grands philosophes, évidemment, étaient des grands intellectuels, mm-hmm. Qui avaient beaucoup réfléchir et penser dialectiquement les choses. Mais les premiers philosophes, comme on a parlé au Club Créé, Empédocle, Parménide, étaient en fait des guérisseurs et des chamans à toute fin pratique. Ils approchaient la philosophie d'une façon, on les appelait des physicos à l'époque, c'est-à-dire ce qui est devenu le mot physicien et médecin. Et ils intervenaient pour l'équilibre psychologique des gens. Et plusieurs d'entre eux avaient été initiés au mystère dans des conditions très particulières qu'on pourrait vraiment comparer au confinement. Leur pratique s'appelait l'incubation. Mm-hmm. il se faisait enfermer dans une grotte, éventuellement sur un lit ou même dans un sarcophage, pour avoir une expérience de NDE, d'entrer en contact avec l'inconscient puis le monde des morts, et revenir confirmé dans la sensation d'être éternel, d'avoir contacté l'autre dimension.
NDE, donc, NDE qui veut dire Near Death Experience, et en français c'est EMI, expérience de mort imminente.
Okay. Oui, c'est ça. Mais c'était des expériences psychologiques. Là. Ils ne se mettaient pas en danger vital, mais au niveau des rituels, des différentes pratiques qui les menaient à ces états-là, c'était quand même des expériences limites, là, avec des périodes de confinement longues, etc. Et aussi, ils s'intéressaient beaucoup aux rêves et à l'interprétation des rêves. Alors, moi, j'ai été très, très interpellé. Ce sera probablement de savoir, par exemple, que Pythagore a été initié au chamanisme par un Mongol qui s'appelait Abarir Aitroibates, qui veut dire, en fait, plus ou moins littéralement, Abarir Skywalker. C'était un Mongol qui est arrivé dans le milieu où habitait Pythagore, porteur d'un nouveau message, de nouvelles pratiques. Et il était fameux parce qu'il se promenait avec une lance dont on dit qu'elle avait une pointe à trois pôles. Et c'était commun aux Mongols, mais je veux dire, les Grecs ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un pouvait se promener à cheval avec une lance comme celle-ci.
Comme si c'était un trident, finalement.
Oui, c'est ça, c'est à trois...
Trois axes, là, trois apex.
Trois axes sur la pointe.
Oui, oui, d'accord.
En fait, c'est un furba tibétain. Donc, en fait, c'est les premiers
Brosse-le pas, puis tourne-le lentement. Tu le brosses, puis on ne le suit pas, là. Tiens-le devant la caméra, puis tourne-le lentement, là. Parce que ça n'a pas arrêté de bouger. Bon, là, on vient de comprendre. Oui. Merveilleux, Alain. Merci.
Alors, ça, c'est... Et on voit, là, Bon, là, ça, c'est... Il ne date pas de la Grèce antique, là. Mais je veux dire que c'est très vraisemblablement un symbole très semblable à ça que Abarir portait, c'est-à-dire l'équivalent d'un furba tibétain.
Ben oui.
Les Tibétains ayant été influencés par les mêmes Mongols.
Ben oui.
Donc, on se trouve donc à voir les premiers philosophes qui étaient en fait des chamans capables de penser le trois. Parce qu'au fond, c'est ça la difficulté. Quand Parménide dénonce ceux et celles qui se fourvoient dans l'illusion, au fond, ce qu'il veut dire, c'est que l'être humain ordinaire, entre guillemets, est pas capable de voir au-delà du deux. Il juge tout en termes de bien, mal, c'est vrai, c'est faux. C'est réel, c'est pas réel. Alors que, du point de vue des premiers philosophes, il n'y a que l'être qui est, et il est fondamentalement tout ce qui est. Et donc, il n'y a rien de ce qui est pensable qui n'est pas, en fait, d'une certaine façon, réel. Mais eux autres l'entendaient au sens de illusoire. Ils ne l'entendaient pas du tout comme nous, on veut dire. Je veux dire manifesté. Donc, ce qui... Il n'y a rien de ce qui peut être pensé qui n'est pas manifesté, mais évidemment sous un mode d'illusion tant que tu ne vois pas l'être tel qu'il est. Je ne veux pas nécessairement aller plus loin que ça à cet instant-ci de la conversation, mais je veux dire par là qu'il est facile de se méprendre sur ce que c'est que la fonction d'un philosophe. Précisément, dans certaines des conversations qu'on a eues, tu nous l'as déjà reproché, tu sais, de ne pas trancher. Pourquoi? Parce que, au fond, c'est pas parce que j'ai pas des opinions, mais c'est parce que du point de vue d'où je me place, toutes les opinions sont des points de vue limités, y compris la mienne. Alors, à un certain niveau, je préfère de beaucoup essayer d'élever ma conscience au-dessus des polarités que je perçois. Évidemment, c'est pas nécessairement si facile, surtout dans une période de crise comme celle qu'on traverse dans le moment. Où les polarisations s'accentue d'une certaine façon. Hein? On a tendance à vraiment plus s'y retrouver, précisément parce que on est comme tout le temps en train de nier un pan ou un autre du réel. Cette fameuse façon de penser en dualité veut dire que, à quelque part, on considère notre point de vue comme la vérité et le point de vue de l'autre comme une illusion ou même carrément un mensonge. Alors que s'il te dit sa vérité, il n'est pas nécessairement en train de mentir. Le mensonge, c'est un phénomène qui existe. C'est une stratégie connue. Mais je veux dire que c'est moins généralisé que dans la perception des gens. C'est plutôt une dissonance cognitive entre les différents points de vue qui est très généralisée, ce qui n'est pas la même chose. Il y a aussi beaucoup de mensonges, mais ce n'est pas central au problème. Le problème, c'est la capacité de mettre ensemble ou d'harmoniser des points de vue différents. Ce qui serait au départ le fondement même de la démocratie. Mais c'est facile de dériver, de tomber dans des situations où ça devient, comme entre guillemets, plus aussi facile. En particulier, par exemple, au moment de la chute des empires. À la chute de l'Empire romain, comme présentement pendant la chute de l'Empire américain, les systèmes de valeurs s'écroulent, donc on perd les repères. Donc, on se rattache à des futures pailles, à vraiment pas grand-chose, à des fragments de connaissances, parce que la connaissance n'est plus unifiée. Elle se multiplie comme un jeu de miroir à l'infini.
Mm-hmm. Oui, je te suis, là. C'était donc une traduction étrange de philosophe à physicien.
Puis non, c'est-à-dire que philosophe, c'est postérieur. Et
en disant en même temps médecin. Et on sait qu'en français, on dit un médecin. Puis en anglais, un médecin, on appelle ça a physician.
Oui, c'est ça. C'est les mêmes racines.
Là. Ils ont gardé la même racine. Puis nous, pour nous, en français, un physicien, s'il n'y a pas plus terre-à-terre qu'un physicien qui est vraiment dans l'atome, dans la matière, dans la physique, Newton et tout le reste.
Ah oui, mais c'est parce qu'à l'époque des Grecs, ces gens-là étaient tout ça en même temps. Là. Platon, Aristote, en sont venus à créer des principes qui sont devenus les basements de la logique puis de la science. Et suite à ça, il y a eu le phénomène de la spécialisation. Là. Donc maintenant, c'est sûr qu'un physicien fait des recherches, ils vont y prendre toute une vie, il n'y a pas le temps de se consacrer aux autres éléments. Ce qui crée par contre une fragmentation de la connaissance. Mm-hmm. Un bonhomme comme Léonard de Vinci, un peu plus près de nous, mais quand même il y a très longtemps, là, qui était un talent...
Oui, mais c'est un génie.
Inventeur, physicien, inventeur, c'est ça. Là. Donc, mais plus on avance dans les périodes modernes, plus évidemment il y a cette espèce de fragmentation de la connaissance. Et à cause de ça, des gens peuvent connaître très, 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 très bien une dimension, mais pas d'autres. Par exemple, dans les cas qui me préoccupent dans le moment, il y a des épidémiologistes, j'essaie de parler, donc qui sont spécialisés dans l'étude des épidémies. C'est des années d'études, là. C'est des gens qui connaissent le sujet. À la limite, par contre, ils ne vont pas nécessairement être capables de tout analyser, je ne sais pas quoi, moi, la psychologie humaine ou le mouvement des sociétés. Alors, c'est ça aussi qui crée des espèces de luttes entre les spécialisations, disons. Donc, des luttes de points de vue. Là.
La période qu'on vit là, est périlleuse. Heureux ceux qui sont capables de tirer leur épingle du jeu puis de profiter de cette occasion-là pour se ressourcer, retourner à l'intérieur d'eux, dans le cénacle, dans l'endroit où on médite, on réfléchit, on regarde des documents sur Internet, on lit des documents, on lit des livres, on est capable là, de faire le point, tu sais, le reset, comme ils nous disent qu'ils vont faire en janvier, là, à Davos. C'est la période où on doit abandonner l'ancien monde pour se retourner vers le nouveau monde. Et plus les douleurs vont être grandes dans la naissance de ce nouveau monde, plus ça va être pénible. Parce que, de toute façon, si on veut réussir à rentrer dans le nouveau monde, on va y aller de toute manière, de gré ou de force.
Te souviens-tu, Richard?
Oui.
On avait déjà eu cette conversation-là en 1987.
En effet, ça me rappelle quelque chose de rétrograde.
Oui. Tu m'avais demandé à l'époque si la fin du monde s'en venait, parce que dans le calendrier maya, il y avait des dates qui coïncidaient et qui donnaient l'impression que la fin du monde s'en venait. Et finalement,
2012, on peut pas dire
que... oui. 2012, ça c'est après. Mais la première fois, c'était en 87. Je me souviens même pas pourquoi, puisque ça s'est pas manifesté comme tel. Mais j'avais été bien surpris parce que...
Ah, tu parles de 1987?
Oui.
OK, là, je me souviens mieux. Mais évidemment, parce que ce qui est arrivé en 1992-93, c'est quelque chose d'extrêmement occulte. Comme je disais à mon public qui était à l'écoute sur le câble à l'époque, ils ont sabré le champagne parce que, effectivement, ces autorités-là ont compris que plus rien ne leur serait impossible de ce qu'ils ont projeté de faire. Exactement comme on dit dans la Bible, lors de la fameuse construction de la tour de Babel. Il y avait l'impression que là, ils atteindraient le ciel, ils parleraient avec les dieux, puis là, plus rien ne serait impossible de ce qu'ils ont projeté de faire. Et c'est là que Dieu descendit et les divisa dans les multiples langues. Et finalement, ça a été la fin de tout.
Il faut comprendre que c'est en train d'arriver.
Oui.
C'est pas en disant c'est pas en train d'arriver que ça va arrêter. Donc, ce qui compte, c'est comment, en conscience, on se positionne là-dedans pour le vivre de la façon la mieux adéquate, adaptée, en rapport avec les autres, en solidarité, en compassion, en ouverture de conscience. Et alors, évidemment, même le confinement, qui est un dur sacrifice, entre guillemets, des conditions vraiment pas plaisantes, là, mais peuvent devenir une opportunité pour se remettre en question, pour s'observer, pour découvrir même une joie profonde. Pas facile à atteindre quand on est anxieux, quand on a peur, mais on n'est pas obligé d'avoir peur. On entend souvent sur l'Internet que les gouvernements essayent de nous faire peur. Pas spécialement. Je trouve qu'on essaye autant de nous faire peur sur l'Internet que les gens ont peur. Ça, c'est observable. Mais je veux dire, ce qui se crée, c'est des conditions d'adaptation à une crise. C'est pas obligé d'être animé par la peur. Ou à tout le moins, la peur peut être bien dosée, là. C'est sûr, par exemple, des parents vont faire peur à leurs enfants, mais pas ta main sur un feu allumé, sur un poêle.
Oui, oui.
Ils ne sont pas obligés de les terrifier avec ça. Ils leur disent qu'il ne faut pas mettre sa main sur un feu allumé. Hein?
Oui, mais si l'autre, est gens... l'autre est un petit peu tannant, puis qu'il veut, il veut essayer, il veut le voir par lui-même, alors là, il faut que tu écris par la tête. « Hey, toi, je dis pas! »
Ah, des fois, oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Il y a deux types. Là. Ouais. J'aime l'argument de Guis, Guylaine Langteau.
Oui, Guylaine Langteau, qui s'est appelé Guy.
Qui parle de la réaction à la crise actuelle en utilisant les deux images des moutons et des moutons noirs.
Ouais.
Mais en fait, les uns marchent avec la carotte, les autres marchent avec le bâton. Au fond, c'est équivalent.
Ouais.
Qu'on soit... soumis, disons, à ce qui se passe, qu'on soit en rébellion, en fait, on fait le jeu de ce qui se passe de toute façon. Il n'y a qu'une façon d'échapper à la peur, à l'anxiété, c'est en ouvrant le point de vue. Si le point de vue est fermé sur un seul canal d'information, un seul mantra, d'autosuggestion, de rétro, rétro-feedback, là, rétro, le fait qu'on s'alimente de ce que sont, on sait tout.
Une rétroaction, comme on dit des fois, une rétroaction.
Oui, de rétroaction, c'est ça, vraiment bêtement le mot que je cherchais. Donc, si on est tout le temps dans une espèce de boucle rétroactive, à toujours se nourrir des mêmes informations, ben, on crée une espèce de situation anxiogène, quoi. Peut-être que je pourrais introduire ici une idée bien, bien importante, parce qu'il faudrait que tout le monde le sache.
Bon.
L'anxiété, c'est la résistance à ce qui est.
Oui.
L'anxiété va monter comme une peur de quelque chose face à quoi on résiste. L'angoisse, c'est une peur face à l'inconnu. Les deux, dans un cas, il s'agit d'avoir peur de quelque chose qui est devant soi, puis dans un autre, il s'agit d'avoir peur de quelque chose qu'on ne sait pas tout à fait c'est quoi. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une peur qui résiste à ce qu'il y a devant soi, en guillemets, ce vers quoi on s'avance. Et ça peut continuellement augmenter, entre autres, si on résiste à cette anxiété. Donc, l'anxiété va augmenter parce que on résiste à l'anxiété. Donc, il n'y a rien de plus anxiogène que de résister à l'anxiété et de résister aux émotions qui montent. Alors, ça peut sembler ésotérique, mais c'est éminemment pratique. Ça devrait s'enseigner dans les écoles. C'est la base même de ce qui fait que, par exemple, le confinement peut devenir une source de joie. Parce que être seul avec soi-même, c'est pas supposé être si désagréable. Évidemment, je conçois, là, j'ai de la compassion, là, je comprends très bien que ça peut être très difficile pour beaucoup. Mais c'est toujours, si on regarde bien, c'est toujours parce qu'on regarde dans le futur. Ça va être terrible bientôt, mais dans le moment, qu'est-ce qui arrive? Dans le moment, je suis seul avec moi-même. Il y a moyen d'être bien là-dedans. Et c'est une opportunité initiatique. Ça peut sembler très ésotérique, mais c'est ça le confinement. C'est pas le but, là. Le but, il y a des raisons pratiques, sanitaires, mais c'est l'opportunité. Au lieu de résister au fait que c'est ça qui se présente à nous, utilisons l'opportunité qu'il y a là. En fait, à chaque étape du changement, ça va être ça le défi.
Oui.
C'est plus facile à dire qu'à faire, on s'entend. Là. C'est ouais. Ça qui est confortable dans la position de philosophe. Parce qu'il y a des gens qui vivent des difficultés très, très concrètes. Là. Mais quand même...
Oui, mais étant donné que tout le monde est pris dans le même naufrage du bateau, du navire, il y a une espèce de commodité dont on peut tous profiter. Si le gouvernement n'aide pas financièrement les citoyens financièrement, là, et j'entends là, la PCU et tout ça... ça va être la révolte sociale. Alors, ils achètent la paix sociale en donnant un 2 000 $ à tout le monde qui en demande, puis il y en a qui ne demandent même pas, puis le soir. On sent qu'ils sont dépassés par les événements, mais pour ne pas perdre le contrôle, ils vont aller au plus bas dénominateur commun, et tout le monde a besoin d'argent pour être capable d'arriver devant les besoins essentiels.
C'est quand même concrètement vrai aussi.
Oui.
Alors, c'est quand même concrètement vrai. Je pense qu'au fond, c'est la bonne démarche à avoir.
Là, ah ben oui, ben oui. Si on veut sauver les apparences, on va les calfeutrer, on va les peinturer, on va les brosser pour les dérouiller. Mais au bout de la ligne, il empêche que le bateau est vieux, le bateau ne tiendra pas la houle très très forte. À un moment donné, il va se déglinguer puis tout va se casser. Et il y a des gens qui, eux, regardent les autres se dépêtrer comme ils peuvent, ils ont une espèce de petit sourire en voulant dire « Ah, ben ils n'ont que ce qu'ils méritent. » On les a foutus dans ce marasme-là. Et ces gens-là, bien souvent, c'était des bonnes personnes qui s'attendaient à avoir une bonne guidance. Un peu comme dans le temps, on avait des pastoraux, il y avait des gens qui étaient au champ, qui entendaient l'église sonner, l'angélus le midi, le soir... Et puis, il répétait intérieurement le fameux angélus, la prière. Et il y avait une harmonie dans un temps où les choses étaient réglées. On passe de l'œil de Dieu qui voit tout à l'œil de Big Brother qui voit tout. Le Big Brother, oui, lui, là, c'est des humains avec de la technologie, des caméras, puis des ci, puis des ça. Puis, où ce que tu sois, il savait Dieu où tu étais. Alors, il est allé trouver même Caïn dans une tombe. Hein. et l'œil qui regardait Caïn, tu sais.
Quelle est la différence, Richard?
Ben, la différence, c'est que dans un, c'est dans un monde éthéré, spirituel, immatériel. L'autre, ça touche. Tu le ressens et tu le touches et tu peux le peser, le mesurer au jour le jour. L'autre, tu priais pour le pain quotidien. Aujourd'hui, tu pries pour avoir le PCU mensuel. Et là, tu te sens correct. Il faut que bientôt, avec la puce dans la main ou le code d'identification personnelle, qui va faire qu'on va tout savoir de toi sur les plans de ta santé,
oui,
de ta génétique. Et c'est comme ça déjà en Islande, me dit Geneviève. Là.
Hein?
Geneviève me dit que c'est déjà rendu comme ça en Islande. Là, les gens, là, ils sont allés dans ça, puis ils rentrent dans cette nouvelle étape. Moi, je me souviens de quelqu'un qui était... Il y avait trois beaux chevaux. Là. Il y avait deux percherons pour faire la bourre, puis il y avait un cheval alezan qui servait à traîner la calèche pour aller à l'église le dimanche et faire l'équitation, mais de luxe. Là. Et il a remplacé ces trois chevaux en l'espace de 2 mois pour remplacer l'écurie qu'il y avait, les stalles, nettoyer tout ça, vider tout ça, rebâtir ça pour faire un garage pour son char à pétrole qui faisait ping 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 pour faire peur aux chevaux, là, qu'il fallait qu'ils s'en aillent. Au début, quelqu'un qui rentrait dans un village avec une auto à piston, il était obligé d'avoir quelqu'un qui marche en avant de lui, plus loin, pour avertir les gens qui ont des chevaux, retenez vos chevaux, enlevez vos chevaux du chemin, il y a une auto qui s'en vient. Ça a été un bouleversement social, mais terrible, là. Parce qu'il y en a qui avaient une clairvoyance de se dire, écoute, ça ne sera pas long qu'il n'y en aura plus de chevaux dans les rues. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, les maréchaux ferrants, ceux qui faisaient les fers à cheval. Après ça, tu as les attelages. Il y avait tout ça qui s'en allait en fumée. Des gens qui avaient travaillé, qui avaient enseigné à leurs fils à faire la suite de leur travail, et tout était... Alors là, on est pris avec un autre paradigme qui arrive bientôt, mais on est déjà dedans, comme tu dis. Ça rentre doucement, mais ça rentre et sans merci. Ça va écraser du monde, ça va ruiner du monde, ça va éliminer du monde, mais ça va donner naissance à des garages, à des garagistes, à des mécaniciens, puis avec des produits nouveaux qui arrivent sur le marché, la batterie d'automobile, la transmission, le transport de gasoline, de pétrole, on va changer, là. Même ça va s'en aller. Moi, je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui me marque le plus. On change de paradigme. Et on dit, ah, c'est terrible. Attendez donc de voir quand vous n'aurez plus le droit d'avoir une auto personnelle. Quand vous allez vous rendre à un endroit, vous avez une carte qui vous dit, vous voulez aller où? Vous donnez le lieu, l'adresse. Et l'auto va aller dans les meilleures routes. Et l'auto va aller aux vitesses légales tout le temps. Si c'est 30 km, il va aller à 30 km, même s'il pourrait aller à 35, 30, 40. Mais quand ça va être 90, il va aller à 90. Et il n'y aura pas d'accident parce que tout va être très parfaitement organisé, orchestré pour que ça suive un programme que quand il ralentit pour laisser passer l'autre, puis l'autre entre dans l'autoroute et tout le monde y va. Oui, on va se demander comment on faisait autrefois. Ah ben il y avait des stops, mais il y en a qui n'en faisaient pas. Ça faisait des accidents. Puis, le changement de paradigme, les gens, ils ont eu peur de la télévision quand elle est arrivée. D'abord, il y en a qui pensaient qu'il y avait quelqu'un en bois. Ils regardaient en arrière, voir. Après ça, il s'habillait chic avec une cravate parce qu'il se disait, il nous voit. Regarde, il nous regarde, on le voit qu'il nous regarde. Il se mettait une cravate pour écouter la télévision en noir et blanc. Quand la télévision couleur est arrivée, ça a été le scandale, ça a été la peur d'attraper le cancer à cause que la couleur ferait ça. Là, on est pris avec la 5G qui arrive, parce qu'on avait la 4G, la 3G, la 2G avant. On est pris avec des changements technologiques qui apportent un mieux-être physique. Tu me demandais c'est quoi la différence avec l'époque où on avait la religion, de la spiritualité. Là, on est tellement tombé dans la matière qu'on ne voit que du feu dans les choses, la matière, les choses. On ne s'aperçoit pas qu'on est en train de se faire avoir par ces choses-là. Comme dirait l'autre, qu'est-ce que tu possèdes dans ta vie? Oh, moi, j'ai un gros char, j'ai une grosse maison. Oui, OK, tu es possédé. Tu es un possédé par le char, par la maison, par le bateau, tu sais.
Richard, on est moins passé d'un monde spirituel à un monde matériel qu'on est passé d'un monde religieux à un monde scientifique.
Parce ça, que, j'aime ça beaucoup. Mais attends.
La spiritualité, ça existe encore. C'est sûr que c'est comme, à quelque part, un peu, disons, underground, pour prendre un néologisme. Oui. C'est moins extérieur, c'est moins manifesté partout. Mais c'était pas plus manifesté dans les églises, là. Je veux dire, les églises, c'était une façon de contrôler les populations, là. C'était quand même quelque chose d'imminemment.
Absolument. Absolument. Big Brother était dans le confessionnal qui attendait que tu révèles toutes tes affaires, tes problèmes, pour après ça savoir que toi, tu ne peux pas devenir le maire de la ville. Parce que tu n'as pas les aptitudes, tu es un alcoolique ou ben non, etc. Ouais.
Comme maintenant, ils collectent nos informations sur Facebook.
Ben voilà, ben oui, c'est ça. Plus ça change, plus c'est pareil, mais c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est ça.
Alors, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas si tant raison d'avoir peur. Je ne dis pas qu'il faut être mouton, justement, là, selon une image. Là. Réfléchir aux façons dont nous, on veut vivre ces changements-là, pour justement, au lieu d'être des témoins passifs puis des victimes du changement, on devienne des agents actifs et créatifs dans ce changement-là. Parce que ce changement-là, il a aussi besoin d'être créé. Là. Je veux dire, il y a plein de défis. Des défis incroyables au niveau environnemental, au niveau économique, au niveau de la créativité, au niveau politique, au niveau des échanges sociaux, la façon dont les gens sont en rapport. Dans le moment, à court terme, la pandémie est un des pires tests qu'on a jamais eu. Et la beauté de ça, si vous pardonnez l'expression, c'est que c'est planétaire. On a rarement eu l'occasion de vivre une crise planétaire.
Puis au lieu de penser collectivement, il y a aussi de penser individuellement. Qu'est-ce que c'est qu'on peut tirer parti des événements qui se déroulent présentement?
Chacun, chacune, oui.
Individuellement, là. Toi, ta compagne, on se fait de la nourriture chez nous. Geneviève a fait de la bouffe avec tous les légumes du jardin qu'on a eu, du potager. C'est extraordinaire. Je mange végétarien comme ça, ça se peut pas, là, de jour en jour.
On a plus de temps pour méditer, on a plus de temps pour marcher ensemble.
Oui, absolument. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas de recette magique. Mais tout est en train de se passer à une vitesse assez accélérée pour provoquer le changement. Au lieu de prendre 50 ans pour que ça se fasse, ça va se faire en 10 ans, de 2020 à 2030. L'agenda 2030, regardez bien, tous les étapes, tous les items de ça sont tous, à première vue, vraiment merveilleux, positifs. Je le dis comme ça. Mais comment ça va être appliqué? Ah, ça, c'est une autre chose.
Oui, ça, c'est une autre chose.
Puis ils disent qu'il y en a 17, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a 18 en réalité. Le dernier petit carreau là, qui est noir, là, ben, ils ne nous le disent pas ce qu'il y a dans ça. C'est le plan coercitif. La police, le militaire, les prisons, les centres de...
Richard. Oui. Reviens ici.
Ah oui.
On verra.
Ça, on verra, oui. L'intention est toujours très bonne et glorieuse même. J'ose pas parler de certains personnages qu'on a vus à la Deuxième Guerre mondiale qui disaient qu'ils vont dominer pour un mille ans. On a toujours dit, jamais deux sans trois, il y a eu deux guerres mondiales. On est entré dans une troisième guerre mondiale, mais pas avec les mêmes outils qu'à la Première Guerre mondiale où ils utilisaient des dirigeables. Dans la Deuxième Guerre, ben, il y avait des avions qui commençaient à être des avions à réaction. Puis dans la Troisième Guerre, ben, on est dans la génétique avec les pandémies, même s'ils ont essayé des gaz.
Non, Richard, je t'avais demandé de parler là. Tu as le droit de dire ce que tu veux à ton émission.
OK, Mais comment tu peux expliquer?
Parce que pour moi, c'est encore une fois, le problème, c'est que plus une vision est, Il y a un problème avec pour moi, il y a un problème avec la voyance, c'est que c'est la voyance, c'est pas moins un point de vue, c'est un autre type de point de vue qui regarde d'une autre hauteur que le point de vue horizontal, mais ça reste un point de vue. Donc c'est teinté du point de vue de la personne. Et bon, à vrai dire, c'est pour ça que tu as pleinement le droit d'avoir tes perceptions puis de les partager.
Mais moi, je sais qu'après les douleurs de l'enfantement, ce sera un monde merveilleusement mieux que ce qu'on a maintenant et qui est mieux qu'à l'époque des chevaux, puis mieux qu'à l'époque du Moyen Âge, puis mieux qu'à l'époque de l'homme des cavernes. T'sais?
Oui,
Alors, je me
d'accord.
dis,
Alors
on
là,
évolue, on
je
évolue, mais on a une période difficile, mais après, mon Dieu, après l'hiver, ça va être le printemps. Alors, on organise dans la maison ce qu'on veut installé quand le
Oui, ça,
printemps
je
va
suis tout
arriver.
d'accord. C'est parce que j'essaie de dire que c'est mieux de moins faire peur aux personnes que possible. Ça, on reproche aussi au gouvernement de différents pays de ne pas dire toute la vérité. Mais est-ce qu'on veut vraiment la savoir? Il y a quelque chose dans la façon dont tout ça se déploie. Pour ainsi dire, au compte-goutte, qui est une bonne chose. Comme là, tu dis, les changements vont se faire dans une courte décennie ou dans quelques années, là. Puis, c'est évident, là, on est d'accord, il y a une accélération de l'histoire. Mais ça serait présumé qu'il n'y avait pas de changement auparavant. Alors que, il n'y a que ça,
Ben
depuis que
regarde,
je suis né, là.
l'automobile, le modèle T de Ford, qui est apparu dans les années 1910 à peu près, le modèle T, c'est un moteur à explosion avec des pistons. Hey, on est rendu presque 100 ans plus tard, même plus que 100 ans plus tard, puis on est encore avec des moteurs à explosion à pistons, qui
Mais ça
polluent,
fait déjà
qui envoient dans les...
longtemps.
Alors, écoute, Nikola Tesla avait une auto qui était autonome en électrique. C'est pas le même genre de Tesla que les autos Tesla qui ont des batteries énormes et qui pèsent des tonnes. Lui, c'était, il allait chercher l'énergie dans l'énergie ambiante. Et ça entrait, c'est l'énergie libre. Il nous prive de ça, bien sûr. Mais tout ça va basculer, là. Tout ça va basculer. Quand je dis 2023, ça va frapper dur. Parce qu'on disait toujours, depuis 10-15 ans, j'entendais tellement les gens qui disaient, on va frapper un mur, on va rentrer dans un mur, on va frapper un iceberg. Oh, ça va être terrible. Il faut que ça change. Il y a trop de corruption partout. Il y a des choses qui sont empêchées de prendre le marché. On nous prive de telles inventions. À un moment donné, puis on s'empoisonne dans la nourriture, on s'empoisonne dans l'air avec les chemtrails, on s'empoisonne socialement parce qu'on coupe les budgets, on rend les gens fous. Puis à un moment donné, faut que ça arrive, que ça change. Ben là, ça change. Ça fait dur parce qu'il y en a plein qui ne veulent pas que ça change. Il y en a d'autres
On
qui veulent
devrait
que
être
ça change
content.
d'une manière qui n'est pas positive, mais qui va être encore plus néfaste parce que les autres sont égocentriques, égoïstes, puis ils veulent attirer ça à eux pour garder le pouvoir, puis tout ça. Tout ça va être déchiré, basculé. 2023, c'est le grand surrender, le grand rendez-vous, le grand reddition, abandon. On passe à autre chose et là, on aura le temps de réfléchir des conséquences de ce qui s'est passé d'ici 2023 pour se dire, on répare, on a démoli bien des choses dans notre génétique, dans la société, dans la nature, et on va maintenant repartir à zéro, reset. Puis ça va être très positif parce qu'il y aura des gens qui auront vu clair, mais il y en a qui ne voient rien tant qu'ils n'ont pas frappé le fond du baril. Ils vont continuer à boire. Là, j'en ai besoin, c'est bon pour mon arthrite. Puis, à un moment donné, là, ils ont du délirium tremens, là, puis ils ont des problèmes parce qu'on frappe. Ils sont rendus dans le fond du baril. Puis ils sortent de l'alcoolisme parce que là, c'est fini, là. Ou la cigarette, même chose. À un moment donné, ils apprennent qu'ils ont un cancer du poumon. Oh! On peut vous l'enlever parce qu'on l'a pris à temps. Mais ne touchez plus à la cigarette. Ah oh, non, c'est fini. Puis c'est fini. Ça leur prend un choc. Mais là,
Oh
socialement,
mon
comme tu
Dieu,
dis, planétairement, c'est le choc qui arrive là.
ça prend un choc ou une décision. On peut prendre cette décision-là bien avant le choc. Le problème, c'est toujours le problème de la conscience. On n'est pas obligé d'arriver au choc. Ça, c'est pour ça aussi que le mur, il avance, il recule. On ne sait jamais si on l'a frappé déjà ou bien si on va le frapper bientôt ou si on est tout simplement en train de rentrer dedans. Au fond, à la vitesse où tout ça se fait, ça dépend toujours de la conscience. Parce que si on commence dès maintenant à faire les changements dont nous parlons, ben, au fond, on n'a pas besoin de rentrer dans le mur complètement, là, disons, je veux dire, au point que ça s'écrase. Il y a des choses qui sont inévitables. Ben, ça ne sera plus jamais comme avant. Mais pas spécialement à cause de la COVID. Ça, c'est juste un symptôme. faut quand même se calmer. Là. C'est une crise réelle, une pandémie qui est réelle, mais c'est même pas la grippe espagnole. Il y a moins de victimes, il y a moins. Donc, on est étonnamment chanceux que cette crise-là soit en fait si gérable. Et c'est là qu'on voit que nos sociétés sont en train de se désagréger, puisqu'une crise qui est raisonnablement facile à gérer, il n'y a personne qui est capable de la gérer.
C'est ça. Tu as totalement mis le doigt dessus, Alain, parce que le COVID-20 qui va arriver par après, une autre mutation, une autre manipulation génétique dans le virus, ça va atteindre le système nerveux. Et là, ça va être autre chose. Là, on a eu un premier coup. Réveillez-vous.
C'est déjà fait. C'est déjà dans la COVID-19. Pas besoin de dire que ça va être pire. On est dedans.
Tout le monde dit que c'est vraiment pas une vraie pandémie. Il y a bien pas assez de victimes, il y a pas assez de morts. Ils nous font croire des choses. Ils mettent tout sur le dos de ça.
Non, mais Richard, réveille, c'est parce qu'on est confiné. Les gens font des calculs en comparant des situations sans confinement puis des situations avec confinement. Alors, évidemment, ça donne des résultats ridicules. On a beaucoup moins de victimes parce qu'on a pris des mesures. Ces mesures-là peuvent être discutables, peuvent être excessives. Il y a toutes sortes de choses qui méritent d'être discutées. Mais ça change tous les calculs quand même. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas assez de morts. c'est grâce au fait qu'on est confiné.
J'aime ça entendre ça, Alain, c'est ça. Là, moi, je te pousse aussi dans tes derniers retranchements, là. Mon philosophe consultant, je te consulte, je t'insulte pas, là, je te consulte, mais en te poussant dans le fond, en voulant dire, écoute un peu, à quoi ça peut servir un philosophe si ça réfléchit sa propre lumière, qui est de la réfléchie, il n'est pas sur le monde, il est réaliste, il est conscient du monde environnant. Tu m'as l'air d'être assez informé puis de voir le monde environnant, puis j'aime beaucoup tes réactions. Et c'est un grand plaisir parce que là on commence à être dans le pratico-pratique de la réflexion. Là. Puis c'est très grave parce qu'on est dans un monde où on a l'impression que c'est, comme tu as dit dans ton introduction, là, ton trident, là, mais c'est pas un vrai trident, là, mais c'est un tri-point. On est trop polarisé. Hein. C'est tout
un. On n'est pas capable de penser le 3.
Oui.
On pense toujours en 2.
Oui,
on
c'est
ça. On pense pas la réconciliation des contraires.
Là, il y a les anti-masques, puis il y a les pro-masques. Ben non, il y a aussi des autres qui disent, oui, il y a des endroits où ça prend le masque, puis il y a des endroits où on n'est pas obligé. Bon, alors il y a quand même une conciliation possible. Dites-nous pourquoi vous êtes anti-masque. Si tu rentres dans un magasin d'alimentation et tu circules entre les allées, même si tu as des sens uniques, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de monde qui ne suivent pas les sens uniques, ils ne voient pas ou ils ne veulent de rien savoir. Et tu rencontres face à face des gens qui peuvent tousser, qui ont toussé sur leurs mains et qui touchent à des objets que toi, tu vas aller se saisir à ton tour. Il y a des précautions. On est dans un monde égocentrique, ignorant, incompétent.
Et surtout, et ça, je suis fatiguant, parce que je le ramène au fond à chaque fois que je le rencontre, inconscient.
C'est-à-dire ben oui, ça que pourrait se résumer à ce mot-là, c'est sûr.
Oui. L'être humain présume qu'il est conscient alors qu'il ne pourrait l'être qu'au prix d'efforts soutenus qui font la base des initiations dont on parle. Là,
et grâce aux souffrances sociales...
Pas grâce aux souffrances, non, les souffrances...
C'est là qu'il réalise, là, oh, c'est vrai qu'on a ça... Lui-même, non. Il peut souffrir ou il fait souffrir quelqu'un puis il entend l'autre pleurer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Qu'est-ce que j'ai dit?
Je suis en désaccord avec toi là-dessus. La souffrance peut pousser quelqu'un à faire une prise de conscience comme elle peut l'enfoncer dans l'inconscient. Il y a des gens qui, parce qu'ils souffrent trop, sont beaucoup moins conscients qu'il aurait pu l'être s'il y avait eu des occasions de devenir plus conscient. Autrement dit, en fait, la conscience, la souffrance peut favoriser certains types de prise de conscience, c'est sûr, mais c'est plutôt la prise de conscience des conséquences de nos actes qui crée la conscience. La souffrance elle-même, ça... En anglais, ça it numbs you, tu sais, ça t'engourdit, tu sais, c'est comme...
Soit
ça ne te rend pas conscient.
Ben, il y a des rituels initiatiques, où ils vont se flageller, où ils vont se mettre des crochets sur la peau dans le dos, puis ils se font suspendre dans les airs.
C'est ça, je n'ai pas rendu conscient non plus. Non, ça peut créer des états de conscience altérés, mais ça, c'est pas la même chose qu'être conscient. Pour être conscient, c'est être conscient de mon existence et conscient des conséquences de mes actes. Et surtout, ça, c'est ce qui est le plus difficile, c'est ce qui fait que notre société est à certains égards psychopathologique. La véritable conscience, c'est d'être conscient que l'autre existe au même titre que toi-même. Et ça, c'est très difficile pour beaucoup. Pour beaucoup, la priorité est évidemment donnée à soi-même. C'est naturel. On peut même avoir de la compassion pour ça. On peut comprendre que ça arrive naturellement. Mm-hmm. Mais il faut savoir que c'est ça, l'inconscience. Le paradoxe, c'est que le petit égo qui s'imagine là, si conscient, là, c'est lui qui est inconscient. Jeff a même beaucoup répété que ce qu'on appelle l'inconscient, c'est notre véritable conscience. Puis ce qu'on appelle le conscient, c'est ça qui est inconscient. C'est le petit moi, le petit point de vue qui avance en tunnel, dans sa seule réalité, avec ses propres objectifs, seulement ses intérêts. Et donc, à ce moment-là, il peut pas rentrer dans des changements de paradigme, il est dans la répétition de son paradigme à lui. Et donc, il est constamment, même s'il fait des recherches, comme on entend, là, il va répéter ce qu'il sait déjà, par définition. Parce qu'il est en boucle par rapport à son point de vue puis ses propres objectifs. Donc, l'expansion de conscience peut juste venir d'une ouverture du point de vue et de l'effort de réconcilier les opposés apparents, le bien et le mal, dans un troisième terme.
Oui.
D'arriver à comprendre... le travail alchimique qui vient de la friction du oui puis du non qui produit un autre terme. D'ailleurs, en fait, quand on parle même en termes super contemporains d'intelligence artificielle, les anciennes formules d'intelligence dans nos ordinateurs sont binaires, hein, 0-1, 0-1, 0-1, et avec l'arrivée d'intelligence artificielle basée sur des ordinateurs quantiques, on commence à voir qu'au contraire, il va falloir penser comme une croix. Hein? C'est-à-dire, ça va être oui, non, peut-être que oui, peut-être que non.
Et même c'est oui et non en même temps.
Oui, c'est ça. J'allais y arriver. Au centre de la croix, où tout ça est vrai en même temps.
Oui.
Alors, c'est...
Ils les appellent les qubits.
Oui, c'est ça.
Au lieu des bits, là, c'est les qubits.
Nouvelle forme de faire des apprentissages de l'intelligence artificielle, mais au fond, comme d'habitude, ce qui s'est projeté dans la matière à travers la technologie, c'est des formes de notre conscience à nous, là. Autrement dit, c'est parce que cette capacité de penser à cinq pôles, si tu veux, en 5D, existe dans l'être humain qu'elle commence à exister dans la technologie. Et ça, disons vraiment, ça fait partie des changements de paradigme dont on est en train de parler. C'est-à-dire que l'accélération des phénomènes actuels vient d'une espèce de passage d'une réalité très, très 3D, dans laquelle les événements sont complètement limités dans la matière, sont chausés et apparaissent réels. Puis, dans la conscience de soi, on commence à penser dans la durée, on est capable de voir l'avenir, d'apprendre les leçons du passé, on étire, on n'est plus dans le 3D, on est dans le 4D, puis dans le 5D, on rentre dans le monde quantique des différentes possibilités, donc de nouvelles possibilités. Mais ça, c'est extrêmement créateur, et c'est pas la première forme que ça a pris dans l'inconscient. C'est la notion de réalité alternative, là. Mais ça, c'était une excuse pour le mensonge. C'est pas véritablement ce que c'est que les autres alternatives.
Oui.
Les autres alternatives sont des alternatives créatives. C'est pas des nids de réalité, là. C'est des nouvelles réalités. Il y a une notion Soleil-Lune, c'est comme si l'univers de la réalité alternative, du fake news, ça c'est lunaire. C'est le miroir de ce qui serait possible en termes de réalité alternative si on le regardait du point de vue solaire, c'est-à-dire du point de vue créatif. Pas créatif dans le déni du réel, créatif dans la création d'un nouveau réel. C'est pas du tout la même chose. Dire qu'une chose n'est pas réelle en comptant toutes sortes d'histoires, c'est participer de la lune, c'est participer de l'illusoire, c'est participer du monde des reflets. Tandis que dire qu'une chose qui n'est pas encore réelle peut le devenir, ça participe du solaire, de la création dans la lumière. Et ça, c'est véritablement ce qu'on pourrait appeler le contact avec le supramental.
Quand je pense à ton introduction de l'émission, que dire les philosophes, ben, ils avaient une vocation de médecin en même temps que de physicien, le thème qui est gardé pour les médecins en anglais, mais que finalement, ils s'occupaient à la fois du corps et de l'esprit, et c'était indissociable. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a des mécaniciens du corps avec du STP pour mettre dans le sang ou pour mettre les vitamines, puis mettre ci. Puis c'est souvent détaché, c'est seulement l'élément actif d'une plante, parce que la plupart des médicaments viennent des plantes, et on a oublié toute la synergie qui venait avec le reste qui est autour dans la même plante. Et là, on a des effets secondaires, puis on se dit, ah, il va falloir réparer les effets secondaires, parce que dans cette plante-là, on est allé chercher l'élément actif qui soigne, mais qui provoque des effets secondaires, parce qu'on n'a pas pris le tout ensemble. Bien souvent, la plante, elle apportait ce qu'il fallait pour protéger des effets secondaires. Mais qu'est-ce que vous voulez?
Le pharmacon, hein? Pardon? Chez les Grecs anciens, le pharmacon, c'était leur remède, mais déjà, eux savaient que ça pouvait aussi être un poison. Il y avait cette ambivalence-là est reconnue depuis l'origine de l'utilisation de ces substances-là. Dans le chamanisme, au contraire, les substances étaient utilisées sous leur forme naturelle. Donc, effectivement, le poison était donné en même temps que ce qui permet de l'absorber ou ce qui permet d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Il y avait des remèdes qui avaient des effets émotifs, qui transformaient l'état psychique de la personne. Il y avait des remèdes, évidemment, qui soignaient des maladies, des symptômes, etc. Mais effectivement, puisqu'il était d'origine végétale, il contenait tous les ingrédients qui permettaient de...
Oui. Bien, alors, Alain, ça fait plus d'une heure, ou presque une heure, là. Mais... As-tu autre chose que tu voudrais ajouter? Là, on va se quitter bientôt. Là, à ta guise, là, si tu as dit...
La rencontre elle-même pourrait être complète, mais il y a aussi, à quelque part là-dedans, la notion du bouc émissaire. Dans le moment, au niveau de la crise au Québec, là, nommément, il y a des gens qui ont dit, quand les mesures qui viennent d'être imposées l'ont été, qu'ils étaient comme les boucs émissaires de la situation. C'est-à-dire que alors que dans les restaurants, dans les salles de théâtre, les musées, ils ont fait tellement d'efforts pour que ça soit sécuritaire, ils ont de la misère à croire que la contamination peut venir d'eux. Et la même chose se dit dans les bars. Moi, je suis plus sceptique, mais ça fait rien. On peut comprendre que légitimement, ces gens-là ont fait des efforts. Et là, ils se retrouvent à être les victimes de mesures quand même assez drastiques. Et ils ont crié, on est comme les boucs émissaires de cette situation-là. Puis, je voulais comme...
Oui, parce qu'on les accuse d'être les foyers de contamination, c'est ça? Parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de monde.
Réalité. Ce qui est plus étrange, c'est qu'on les accuse de rien en réalité. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de la contamination dans la communauté. Alors, on se dit, comme de toute façon, on peut difficilement l'arrêter là où elle a lieu, on va l'arrêter là où elle pourrait arriver.
Oui, la communauté, tu entends par là les parties de famille, les réunions.
Les parties de famille, les parties entre amis.
Oui, oui, oui. Oh, oh, oh.
Il y en a beaucoup, là, je veux dire, il suffit de s'être promené un peu vers la fin de l'été, les terrasses étaient bondées, les gens considèrent vraiment là, que le party est parti, tout est fini, c'était amusant, c'était correct, là, j'en veux à personne, mais c'est remarquable. Je voyais deux travailleurs qui rénovaient leur galerie, puis ils jasaient, puis l'autre, il y en a un qui dit à l'autre, puis qu'est-ce que tu faisais toi pendant la pandémie, comme si c'était fini.
Ah alors, oui.
Tu sais, c'est comme les gens réalisent tout simplement pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Bon. De l'autre côté, ce qui est en train de se passer n'est pas nécessairement non plus aussi grave que d'autres le prétendent. C'est complexe. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que donc, il y a plusieurs personnes qui sont devenues très, très négligentes et ont choisi, à quelque part, un petit peu arbitrairement, qu'il y a des risques dans les restaurants. C'est pas faux, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a probablement plus ailleurs. C'est dans ce sens-là que c'est légitime de dire que ces gens-là sont des boucs émissaires. En fait, il faut savoir... Mais
vas-y, oui, j'ai hâte d'entendre ta version du bouc émissaire, oui.
Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un aspect plus ésotérique à ça sur lequel je vais aller. Parce qu'au fond, j'accuse pas le gouvernement d'avoir choisi des boucs émissaires. Il y avait, pour ainsi dire, pas le choix de mon point de vue. C'est pas que je défends ça comme les meilleurs... Ils sont pris avec une chose. En fait, ils n'ont pas si tant peur de la pandémie. Ils ont peur que leur système de santé et leur système d'éducation s'effondrent. Je veux dire, ils ont des responsabilités. Là. C'est plus ça que le fameux nombre de morts, etc. Bon. Mais le bouc émissaire a un niveau plus ésotérique. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est que ça a toujours existé. C'est surtout ça que j'essaie de vouloir dire. Qu'on fasse une accusation politique pointu, ça m'intéresse finalement pas tant que ça. Il faut comprendre que la psyché humaine fonctionne comme ça. Alors, le bouc émissaire, ça peut être les restaurants, comme ça peut être le gouvernement. Là, tout d'un coup, c'est de la faute au gouvernement, il y a une conspiration. Parce que quand il y a des tensions qui se créent dans une société, on cherche, il y a justement cette espèce d'accumulation d'angoisse dont j'ai parlé ailleurs, là. Donc, on cherche à ce qu'elle se déverse quelque part.
Oui. Tu as même recommandé tantôt de laisser passer les émotions, de laisser extérioriser tout ça.
D'ouvrir alors, ou de le projeter.
C'est ça.
De l'ouvrir dans le cœur, de l'ouvrir dans la conscience, de l'ouvrir en soi-même, plutôt que de le projeter sur d'autres. Mais c'est qu'on fait tout le temps ça.
Ouais.
Quand il y a des tensions qui apparaissent dans une société, j'en ai déjà parlé dans les émissions là, du hasard à la connaissance, ça crée des conflits qui sont comme mimétiques, c'est-à-dire que en miroir, ça augmente d'un bord, ça augmente de l'autre. La provocation de l'un crée la provocation de l'autre, puis la tension augmente. Comme dans le moment, il y a une polarisation politique, c'est particulièrement visible aux États-Unis. T'es à l'extrême d'un pôle, à l'extrême de l'autre. Il n'y a pas moyen là, d'arriver à une espèce de réconciliation, d'équilibre. Il n'y a aucun effort dans ce sens-là. C'est vraiment parce que l'un voit l'autre comme le démon. Hein? Il y a une distorsion cognitive qui fait que on projette le malaise qu'on ressent dans l'autre en cherchant un bouc émissaire. Donc, le bouc émissaire, c'est celui qui serait supposément coupable. Le mot vient de vieilles pratiques primitives où on sacrifiait littéralement des êtres humains là, pour que la foule se défoule, que cette tension-là aille quelque part. La plupart du temps, évidemment, il s'agissait de victimes innocentes, mais ça permettait une espèce d'extase collective. On dit « Ah, on a trouvé le coupable, on a purgé la société.
Ouais. »
Chez les peuples hébreux, ça a été ritualisé. C'est qu'on envoyait un bouc à l'extérieur de la ville. C'était justement le bouc émissaire. Il portait le mal à l'extérieur de la ville. Alors, on mettait tout le mal sur lui. Les musulmans font encore ça en lapidant des boucs là, pendant le ramadan. Ouais.
Ouais,
On le prenait, on le sortait de la ville et on l'abandonnait là où on le tuait. Il y a eu des variantes à travers les années. Mais l'idée, c'est qu'on évacuait le méchant à l'extérieur.
Madame Bonner avait demandé la parole. Et après, nous entendrons le ministre et nous voterons.
Merci, monsieur le président. Alors, je voulais reprendre la parole parce que j'ai entendu quelques énormités dans la bouche de certains. J'aimerais commencer par reposer une question à Monsieur le Ministre qui a cité différents territoires, différentes villes, et qui n'a pas cité Marseille, à juste titre, parce que les hôpitaux à Marseille n'ont jamais été saturés, parce qu'il y a toujours eu des lits disponibles dans les services de réanimation et dans les services de soins intensifs. Parce que j'aimerais préciser devant la représentation nationale que les critères passent leur temps à changer et qu'aujourd'hui, dans les services de réanimation, la prudence de certains confrères, et on peut le comprendre, les hôpitaux sont tellement à bout de souffle qu'ils mettent aujourd'hui des patients qui ont simplement besoin de 3 litres d'oxygène. Qui, pour quelqu'un comme moi qui ai fait bon nombre d'années de réanimation avant de m'orienter vers la psychiatrie, je peux vous dire que 2 ou 3 litres d'oxygène, c'est du jamais vu. On n'a jamais mis ce type de patient en réanimation. Et j'aimerais terminer, alors je sais que je suis une affreuse complotiste, mais regardons l'ensemble des pays européens, très proches de chez nous, simplement la Belgique, qui va réautoriser à partir de la semaine prochaine le traitement par azithromycine hydroxychloroquine. Ce n'est pas un traitement magique. J'ai le respect de toutes les personnes qui ont perdu la vie. J'ai le respect de tous ceux qui ont pu être soignés avec ce traitement. Donc arrêtons de continuer à dire qu'il n'y a pas de traitement.
Merci.
Voilà, je pensais important de vous préciser tout cela pour arrêter le ministre. Le gouvernement, stopper l'errance
Monsieur le ministre, vous du gouvernement. Avez la parole.
Je vous remercie.
Dans le fait de considérer que le problème vient de tel segment de la collectivité ou de tel autre, la cause c'est un complot du gouvernement, ou la cause c'est ceux qui portent pas de masque, ou la cause c'est les bars, ou la cause c'est... Il y a une crise, c'est tout. On y participe tous. Puis la question c'est de se responsabiliser nous. Par exemple, on pourrait accuser le gouvernement d'être responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes dans le CHSLD. Mais pour ça, il faut faire l'historique de comment cette crise-là est arrivée. Alors, cette crise-là a une longue histoire de sous-financement, de coupures, ça remonte à un gouvernement auparavant, puis le gouvernement auparavant, lui, a essayé de réparer ce qui venait du gouvernement avant, puis le gouvernement avant, lui, il avait fait des coupures parce que le fédéral l'avait fait, puis vous savez, c'est une chaîne sans nom. Puis pendant tout ce temps-là, on oublie que nous, on vote pour tout ce gouvernement-là, là. Que en fait, ce sont nos choix collectifs qui se sont faits.
Il aurait fallu réélire le même parti de 4 ans à 4 ans, comme là, en Russie, ils n'ont plus le choix, c'est Poutine jusqu'à 2036. Fait que s'il y a quelqu'un du coupable, ça va être lui, dès qu'il arrive quelque chose qui ne tient pas debout, on va dire c'est lui le gouvernement, non, c'est lui qui a tout décidé.
Au contraire, il va trouver un bouc émissaire, c'est ça là, que tu oublies. Il y a toujours moyen de trouver un bouc émissaire, il y a toujours moyen de présenter ça comme si c'était quelqu'un d'autre.
Alors, donc plus ça change, plus c'est pareil.
Plus c'est pareil. Et donc, mais oui quand même, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est responsable collectivement. Dans l'exemple que je donnais, les choix qui ont mené à ce que les gens soient parqués dans des CHSLD, c'est aussi les choix qu'on faisait, nous, de plus s'occuper de nos aînés, là. Je veux dire, on a tous contribué à ça. Chacun a des degrés différents, je me suis peut-être plus occupé de ma mère que d'autres, mais ça ne change pas le fait que collectivement, on récolte ce qu'on sème, littéralement. Et que, au lieu de faire l'examen de conscience que, justement, le confinement rend possible, que l'expérience de l'incubation, d'aller à l'intérieur de soi rend possible, évidemment, ça pourrait générer beaucoup d'angoisse, là, c'est ça le problème. Donc, c'est pour ça qu'on aime mieux endormir l'angoisse avec des pilules. Là. Mais si on s'abandonne à ce qu'on découvre dans nous-mêmes, là, le changement devient possible. Il y a une vieille notion religieuse, entre guillemets, mais qui a une profonde signification ésotérique, c'est la notion de remords.
En grec, oui, tu en as déjà parlé du mot remords aussi, oui.
Oui, c'était métanoïa en grec.
Oui, c'est ça.
Alors, en fait, ça ne voulait pas dire « je le regrette, puis je vais continuer de le faire ». Ça voulait dire « ma mentalité a complètement changé ». C'est « méta » comme ta métaphysique, puis « noia » comme connaissance. Donc, en fait, ça voulait dire « changement de paradigme ». Le véritable remords, c'est pas « Ah, je le regrette donc », c'est « Je ne le ferai plus jamais ». Comme justement l'exemple que tu donnais de quelqu'un qui arrête de fumer ou qui arrête de boire, ou... ça peut se faire un clin d'œil, là, un claquement de doigts. C'est considéré comme étant très, très, très difficile dans certains cas. Il y a des substances qui créent une dépendance qui est quand même difficile à vaincre. Mais la dépendance la plus difficile à vaincre, c'est l'inconscience. C'est-à-dire qu'au fond, au moment où ta conscience s'éveille, ta décision est déjà prise. Là. Oui. C'est possible de changer même des choses comme de puissance addiction, par exemple l'addiction à l'argent ou au pétrole. Ou au
sexe.
Ou à la dépendance au gouvernement.
Oui.
C'est possible de déprogrammer ça, mais pour ça, ça prend la fameuse prise de conscience. Et surtout, je dirais, le premier pas à faire, c'est d'arrêter de chercher des boucs émissaires.
Grâce que je vous souhaite de tout mon cœur. Allez en paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec et votre avec... conscience. Oui, ah non, et avec votre conscience.
Oui, bien d'accord.
Oui. Merci, Alain.
Merci, c'était un plaisir. Puis, salut tout le monde.
Et Geneviève va lancer le générique.
En espérant que cette rencontre vous a plu, vous pouvez passer vos commentaires ici sous le vidéo Landia dans les commentaires. Le premier est épinglé et contient les liens pour aller lire le complément surprenant. C'est le vidéo Landia de la semaine qui suit le samedi 3 octobre 2020, le numéro 40, directement de Mont-Saint-Hilaire. À toutes les couleurs d'automne. Directement chez Richard Glenn, conception, animation et montage. Richard Glenn, notre invité, M. Alain Niala, philosophe consultant, sur le thème imprudence. Il y aura, dans quelques jours après la diffusion de ce vidéo Randia, la version réservée aux abonnés du club créé du mois d'octobre en privé. Le complément surprenant de Gilles Surprenant, ainsi que la version MP3 audio par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald, recherchiste Louis Ferland. À la régie, Spirale, de son vrai nom, Geneviève. Alors voici quelques suggestions de vidéos de nos archives qui nous rapprochent du contenu de la rencontre qu'on a eue ici aujourd'hui. Un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié par l'équipe. Merci et au plaisir.